va laisser la parole à la salle. Donc vous avez la parole pour des questions, des réflexions, sachant, voilà, donc on vous laisse la parole pour ceux qui sont... On a une petite demi-heure pour débattre, donc n'hésitez pas. Voilà, merci monsieur. Merci beaucoup. Donc vous avez la parole.
J'ai été très intéressé par plein d'aspects que vous avez abordés, et j'aimerais beaucoup quelques autres précisions sur ce que vous avez dit sur la façon dont on a dénaturé l'associatif en en faisant une relation marchande. Ce qu'a dit Margot Bonny, c'est une sorte de dénaturation, donc faire d'association, de la société civile, une sorte d'entreprise accueillante avec le marché public. Ça m'intéresse beaucoup que vous approfondissiez. Mais j'aurais une question plus sur l'explication. Vous avez abordé des explications de la différence franco-allemande à partir de la culture, à partir de la religion, à partir de la politique et du Front National. Donc tout ça est très très intéressant, mais personne n'a abordé l'angle économique. Vous l'avez abordé à travers la démographie, mais tout de même, en France, il y a un chômage élevé. Le marché du travail n'a pas encore été totalement déréglementé. En Allemagne, le chômage est beaucoup plus faible. La réglementation sur le marché du travail a évolué sous Schröder. Est-ce qu'on peut déjà, et ça c'est important pour les enseignements pour le dire, est-ce qu'on peut déjà savoir comment l'accueil d'un million de personnes a eu un impact sur le fonctionnement du marché du travail, sur les salaires, sur l'emploi, sur les relations professionnelles? Qu'est-ce que ça a de déstabilisant, ou bien est-ce que c'est rien du tout? Bon, je sais que c'est compliqué parce que c'est très tôt, hein, le temps de l'arrivée, de l'intégration. Est-ce qu'il y a déjà un impact, ou est-ce que l'on peut penser qu'il y en aura?
Ah oui. Madame, juste derrière, vous avez une dame qui veut prendre la parole, elle est juste derrière vous.
Donc, moi, je suis grecque, et je voudrais pas demander quelque chose, mais je voudrais tout simplement parler un peu de l'expérience grecque. En ce qui concerne l'accueil des réfugiés, moi je travaille il y a 2 ans sur le terrain. Et bon, la Grèce, vous savez que pendant les années 2015 jusqu'à 2016, elle a eu 1 million de réfugiés qui ont traversé le pays pour aller dans d'autres pays. Et ça, il a été son problème, c'est-à-dire que tout le monde a aidé pour qu'il fasse ce voyage jusqu'à ce que les frontières enfermés parce que les autres pays ont décidé qu'ils ne vont plus accueillir des réfugiés. Et je veux dire que 6 millions, la population de la Grèce est 10 millions. 6 millions, d'une façon ou d'une autre, d'habitants, ils ont participé à la solidarité et à l'accueil des réfugiés. Et ça, c'est, nous le trouvons que c'est énorme comme un mouvement de solidarité. Et cela est dû à 3 facteurs, selon mon opinion. Tout d'abord, que le gouvernement, dès le premier moment, il a dit qu'on va les accueillir. Même si on est dans une crise profonde, même si on est sous tutelle, nous, on va faire tout ce qu'on peut pour accueillir les réfugiés. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est que nous, on est un pays de réfugiés et de migrants. Et alors, chaque famille avait une expérience, avait une histoire. Et ça lui a parlé, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas laisser les gens comme ça. Et troisièmement, moi je pense que c'est aussi une question de dignité, parce que nous, quand on était le fainéant de l'Europe et qu'on avait perdu notre dignité, on est resté debout et on a aidé des autres peuples qui en avaient besoin. Bon, et ça s'est passé jusqu'à ce que les frontières ont été fermées. Alors maintenant, on a 60 000. Et qui ont été coincés dans notre pays, et on essaie avec la relocalisation, etc., et les aider à partir dans les pays comme il a été mis en accord. Et le grand problème aujourd'hui, c'est l'asile, parce que là, selon l'accord de l'Union européenne avec la Turquie, on a beaucoup de migrants qui ne peuvent pas quitter, ne peuvent pas venir sur la Grèce continentale, parce qu'il faut tout d'abord finir avec les procédures d'asile. Et ça est dû parce que le personnel ne suffit pas. Nous, on a, c'est-à-dire l'État a embauché, le gouvernement a embauché le nombre qu'il fallait, parce que comme on est sous tutelle, on ne peut pas embaucher autant qu'on veut. C'était 200, on a embauché 200. C'est fini. Et l'Europe devait envoyer du personnel, elle n'a pas envoyé le personnel suffisant. Alors les gens qui sont dans les îles sont coincés pendant 13 à 15 mois et ça pose un problème parce que tout d'abord, eux aussi s'affolent parce qu'ils n'ont pas, ils ne voient pas la perspective. Et il y a souvent des bagarres parce qu'ils sont désespérés. Et il y a aussi un problème avec les habitants des îles qui sont fatigués parce que et ils voient qu'il n'y a pas un espoir, ils ont des gens désespérés, et tandis qu'ils étaient solidaires, et ils ont montré une solidarité eux aussi, maintenant ils commencent à se fatiguer devant ce phénomène. Et ça c'est une chose. L'autre chose que je voudrais souligner, c'est que chez nous, maintenant c'est l'insertion, c'est notre pari, c'est l'insertion de ceux qui vont rester en Grèce. Et la première phase, c'est dire, les enfants sont allés à l'école l'année passée, mais dans des classes préparatoires, et ça s'est très bien passé, parce que avec tout ce mouvement de solidarité qui existait déjà, moi je crois qu'on avait gagné la bataille idéologique, et l'extrême droite, le parti fasciste qu'on a en Grèce, même si elle a voulu empêcher ce programme d'insertion des enfants, ils n'ont pas pu, et ils étaient limités dans 10 cas dans sur tout le territoire.
Merci. Oui, continuez.
Alors, pour nous, maintenant, le pari, c'est l'insertion, mais c'est aussi une question de gestion de la situation, parce que une grande somme de l'argent qu'on reçoit de la part de l'Union européenne va aux organisations non gouvernementales. Moi, je ne veux pas dire que les organisations non gouvernementales ne travaillent pas. Mais c'est, quand on a 20 organisations non gouvernementales, c'est une question de gestion très difficile quelquefois quand on décide de faire quelque chose. D'autre part, il y a des bénévoles, il y a des associations qui continuent leur travail. Mais moi, je pense que dans cette histoire, avec tout ce qu'on a dit, on perd quelquefois ce qui est la cause, qui est la guerre. C'est-à-dire que même si on dit que l'expérience allemande est telle, l'expérience grecque est telle ou l'expérience française est telle, si l'Europe ne joue pas aussi un rôle dans la Méditerranée afin que la situation se stabilise et que la guerre s'arrête, bon, on va pas résoudre le problème. Merci.
Merci, madame. Madame, là-bas, qui a une question. Oui. On va faire une ou deux questions. Oui, je vous en prie.
Je voudrais savoir combien de réfugiés à Marseille et quelles sont les conditions pour eux.
Ça, c'est pour Margot. Merci pour la question brève. Monsieur, au-dessus.
Bonjour. Je voudrais savoir est-ce qu'en Allemagne, il y a une procédure du plein? Parce qu'en France, il y a tout celui de Dublin ici. Et pourquoi est-ce que dans toutes les villes de la France, est-ce qu'il y a les procédures de Dublin 600 dans les...
Oui, il y a une question sur coloniale, en fait, donc, voilà, par rapport à l'histoire française et l'histoire allemande, c'est vrai que en France, on a quand même une histoire, et à Marseille en particulier, une histoire de migration très ancienne. Et je me demandais s'il n'y avait pas un gros défaut de pédagogie par rapport à ces questions d'aller voir l'histoire dans la population française, je pense notamment à l'Afrique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une ignorance ou un déni assez profond de la plupart des Français sur ces questions de vie mythifiée. Alors qu'on voit en Allemagne, en tout cas, les jeunes Allemands qui voyagent beaucoup, qui aussi, il y a des programmes de développement qui ne sont pas au niveau étatique forcément, mais microcrédit, etc., qui se développent également. Je me demandais si sur ce point-là, il n'y avait pas la différence culturelle et un passé important, et comment on pourrait, au niveau européen, changer ça. Notamment, je pense aux accords ACP, aux accords sur l'agriculture dans l'Afrique de l'Ouest. qui sont en fait le deuxième ministère, souvent en fait un problème, mais en fait il y a la corrélation qui est soit effectivement les questions de diplomatie, des guerres, etc., ou des accords économiques qui sont faits aujourd'hui avec certaines zones de la planète, notamment la crise de l'eau. Et bien, comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait des rapports aussi des Européens puissent aller plus largement, les jeunes Européens, aller dans le pays, sans seulement dans un sens, c'est aussi ça mon problème.
Merci. Peut-être qu'on va répondre. Il nous reste à peu près 20 minutes, donc on peut peut-être faire un deuxième tour de questions. Alors, première question, alors, la question de la marchandisation, si j'ai bien compris, de l'asile, plutôt des prestataires, mais je ne sais pas employer ces mots. Qui voudrait y répondre ? Oui, Margot. Alors, Margot, oui ? Oui, vas-y, je t'en prie. Je vous en prie.
On peut bien parler de prestataires, de services, exactement. C'est comme ça qu'on nous appelle, on appelle les opérateurs de l'asile. Donc,
On disait, est-ce que la comparaison avec l'Allemagne sur la marchandisation, après on a besoin de... D'accord.
Donc la question était la mise en concurrence et la marchandisation entre États et associations. L'évolution, alors sur les modes de financement, c'est une question qui se pose... clairement, sur la modalité de financement des associations qui interviennent dans le secteur de l'asile, et puis au-delà, dans le secteur social. Le secteur de l'asile et le secteur de l'accompagnement des migrants, de façon plus générale, est un domaine qui est très politisé, et il y a une centralisation très forte du dispositif national d'accueil au niveau donc, du ministère de l'Intérieur et de l'administration de l'OFI. Et l'OFI est tutelle financière, tutelle de financement des associations porteurs de projets, c'est comme ça qu'on les appelle, porteurs de projets et opérateurs de la mise en œuvre du dispositif national d'accueil, avec une centralisation qui est une centralisation gérée et coordonnée par l'Office français d'immigration et d'intégration. Donc les associations qui interviennent dans le cadre de l'accueil des demandeurs d'asile, que ce soit au niveau du pré-accueil, donc concernant les plateformes asile, jusqu'à aux différents types et dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile, ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les hébergements de gens pour demandeurs d'asile, les centres CAO, accueil et orientation, tous les dispositifs d'accueil sont financés et donc par l'OFI. La forme de financement est soit par appel à projet, soit par marché public. Si une association souhaite intervenir dans le domaine donc de l'accueil des demandeurs d'asile, si elle souhaite aujourd'hui être financée pour ça, elle doit impérativement passer par ce dispositif d'appel à projet ou de marché public et être sélectionnée. Bien sûr, cela entraîne des termes de référence qui sont imposés, un référentiel de mission qui est imposé, des objectifs imposés à l'État et bien sûr, de plus en plus, un budget imposé. Donc il y a en fait absolument zéro marge de manœuvre pour créer un projet d'accueil demandeur d'asile. Il s'agit en fait de répondre à la commande publique et de la mettre en œuvre, avec en plus des vraies contraintes, puisque moi j'étais coordinatrice de la plateforme Asile jusqu'au 31 décembre 2015, après on s'est retiré donc, du marché, parce que justement nous n'étions pas en accord avec les termes du marché public, puisqu'il s'agissait d'être dans un rapport de contractualisation extrêmement contraignant en termes d'objectifs, en termes de référentiels et en termes de moyens. Et que ça nous semblait tout à fait impossible. Donc la marchandisation du secteur est vraiment dans ce qu'elle implique en termes de délégation, mais aussi d'outils, en fait.
De projets
associatifs. Ah, bon, on ne parle même pas, mais en tout cas, l'État se décharge de sa responsabilité en finançant des associations, c'est mon analyse après. Pas mis en débat, mais en donnant un peu le sale boulot, tout en ne donnant pas les moyens pour le faire.
En Allemagne, alors, justement en Allemagne.
Je voudrais compléter et encore revenir un peu à l'aspect historique. Il faut savoir que si les associations ont joué un rôle très important dans l'accueil des réfugiés en France, c'est qu'au départ, l'État était complètement démissionnaire. L'État se limitait à accorder les droits d'être là, et il n'y avait pratiquement pas d'action sociale du point de vue émanant de l'État pour simplifier l'insertion des réfugiés dans la société. Dans les années 70, sous la pression des associations qui, elles, s'occupaient des gens sur le terrain, notamment les associations caritatives, il y a eu une délégation de services publics sous forme de conventions signées entre les associations et l'État, où l'État donnait des subventions qui étaient négociées au départ pour l'exercice de ces missions de service public. Et peu à peu, ça commence dans les années 80, ça s'aggrave dans les années 90 et c'est la catastrophe dans les années 2000, on va mettre les associations en concurrence, et c'est tout ce qu'a raconté Margot, on va passer de la logique de la subvention à la logique d'appel à projet, la commande publique, etc. Mais historiquement, ce sont les associations qui ont assumé, et l'État, ça arrangeait l'État, aussi parce que les associations avaient une flexibilité au niveau du travail, d'adaptation au volume des réfugiés qui arrivaient, que l'État n'avait pas. Donc ça intéressait tout le monde. Ça arrangeait tout le monde. Avec les politiques d'austérité, avec les politiques de... j'emploie le mot tant pis, avec l'ubérisation de la société, ben, les associations sont victimes de tout ça. On a supprimé les subventions, on les a mises non seulement en situation de concurrence, mais comme...
avec des morts et des morts et des...
On les a mises en situation de faire le sale boulot, ce qui n'était pas avant le cas.
L'Allemagne, bon, sur cette question de la marchandisation.
Voilà. Là, je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup répondre par rapport à ça, mais ce qui me semble quand même, c'est qu'il y a quand même en Allemagne plus de moyens qui est donné aux associations. Donc du coup, même si c'est par appel à projet, réponse ou à des appels, les moyens sont tels que ça donne plus de possibilités à plein d'associations d'avoir des... En tout cas, actuellement, hein, je parle. Même si on observe quand même... C'est un peu quand même aussi rapport avec ce qui a été fait au niveau européen, non, cette marchandisation des associations, etc. C'est un rapport aussi avec ça. Non. Mais je crois que le... Non, enfin, je ne sais pas, j'avais l'impression que par rapport au Fonds social européen qui distribue les...
C'est autre chose.
C'est autre chose. Voilà. Mais bon, peut-être que vous nous expliquerez un peu mieux ça. Mais en tout cas, je pense quand même que ce qui est intéressant de voir en Allemagne, c'est qu'il y a quand même une forte implication de toutes les fondations, qu'elles soient donc en rapport avec des confessions ou alors avec des partis politiques, qui eux aussi, ont, d'une certaine manière, entrent en jeu aussi dans l'aide, dans l'accueil des migrants. Donc il n'y a pas simplement les associations qui sont là pour aider les migrants, mais il y a aussi toutes les fondations. Et ce système de fondations, on ne l'a pas vraiment en France à ce niveau-là.
Et pour les fondations allemandes, c'est tous les domaines.
Voilà, c'est dans tous les domaines. Dans la
défense,
recherche...
L'environnement...
Oui. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Enfin, une différence aussi avec la France.
Alors, si vous avez à rajouter, peut-être... Oui.
Oui, peut-être que je vais rapidement réagir également. Je pense que chez nous, il y a moins cette notion de prestataire de service pour les associations. Parce que, en fait, bon, je peux surtout témoigner pour mon land d'où je viens, la Sarre. Là, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait toujours... tous autour d'une table, ils se sont mis d'accord sur les dispositifs à mettre en œuvre et il y avait une coopération étroite entre société civile et autorité de gouvernement, d'État fédéral. Donc là, ça s'est plutôt bien passé. J'ai jamais eu de retour de quelque association que ce soit qu'elle aurait été traitée comme prestataire de service ou que ça se serait mal passé. En fait, j'ai pas cette impression et peut-être j'essaie juste d'y trouver une explication à ça. C'est dû peut-être aussi à notre système fédéral, parce que chez nous, l'intégration ou l'accueil des réfugiés, ça se fait au niveau des Länder et surtout également au niveau des communes. Donc chez nous, il y a quand même un très... un clair départage des compétences au niveau communal ou régional pour toutes ces questions-là. Donc l'État national n'y est pas pour grand-chose. Effectivement, les États régionaux et les communes négocient dans la forum à eux qu'ils aient plus d'argent de l'État, mais à part de là, l'État n'y intervient pas. Donc effectivement, il y a des cadres et tout, mais qui définit, mais ça se fait au niveau des Länder.
Il faudrait juste imaginer juste ce qui est dit là et la différence avec l'Allemagne et la France d'une expérience personnelle très rapide.
Bien sûr.
En 2015, en pleine période très compliquée à Marseille, où la France effectivement n'a pas accueilli beaucoup de monde, mais à Marseille on a été débordé. On rencontre plusieurs fois le préfet, l'OFI, on a des réunions. Alors on n'est pas du tout dans une ambiance agréable. Je disais à Pedro, j'avais l'impression d'aller à l'abattoir à chaque fois que j'allais dans ces réunions. Et se pose la question de comment on va faire, comment on va continuer à fonctionner avec cette incapacité totale de répondre aux besoins, d'avoir un monde les situations des salariés de la plateforme étaient vraiment les conditions de travail étaient absolument abominables, les gens étaient dans des situations abominables. Et quand je demande des fonds et de discuter sur ces problèmes, le sous-préfet me dit que de toute façon il n'y a pas à discuter avec ça, qu'il faut régler donc ce problème et qu'on demande, et que nous on se pose la question, est-ce qu'on va continuer ou pas à travailler, et on dit qu'à un moment donné on va peut-être arrêter et fermer, et là j'explique que de toute façon on arrivait dans une impasse en ce qui nous concerne par rapport à notre responsabilité morale, éthique en tant qu'association, notre projet associatif, qu'est-ce qu'on en fait. Et on me répond que ma responsabilité morale, éthique par rapport à mon projet associatif, par rapport à mon travail, n'est absolument rien par rapport à la responsabilité juridique qui me lie à eux. Et là, tout est dit.
On va peut-être pas refaire toute l'histoire, mais il est clair que les fondations ou les associations allemandes sont des personnalités morales, des États dans l'État, qui ne dépendent pas d'une subvention publique. En France, on veut vous tuer, on peut vous tuer en moins de 4 heures en supprimant votre subvention publique, il faut le dire. Et on est dans une région où on en sait quelque chose. Donc encore plus qu'ailleurs. Pedro et moi, nous appartenons à un centre d'études sur les migrations, qui publie la revue Migration Société. Nous n'avons eu aucun conflit avec les pouvoirs publics. La mairie de Paris nous est restée fidèle jusqu'à aujourd'hui, mais l'État nous donne zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous dépendons d'une fondation religieuse internationale, catholique, pour développer cette revue. Donc en France, je dirais que le pouvoir des pouvoirs publics de tuer une association, c'est de l'ordre d'une heure, une heure et demie. En Allemagne, on va pas tuer une association qui a une vraie assise sociale, qui a des financements divers, etc. Donc on n'est pas du tout dans le même rapport. Je voulais qu'on revienne à la question économique. Alors, on a répondu à monsieur, mais je trouve que la question économique, vous avez finalement débattu entre vous, entre la Grèce et l'Allemagne, parce que pas seulement la Grèce, mais la dame qui a témoigné sur la Grèce a bien répondu. Est-ce qu'un pays puissant peut accueillir des réfugiés, puisqu'il a les moyens économiques, et à l'inverse, je trouve que le témoignage de la dame grecque a permis de comprendre qu'il n'y a pas une corrélation, forcément. On a vu une Grèce affaiblie qui a accueilli, une Allemagne forte qui a accueilli, une France, on ne sait plus ce qu'elle est économiquement, qui n'a pas accueilli. Mais en tout cas, elle était plus forte que la Grèce.
Donc, la cinquième puissance mondiale.
Voilà, alors, quand même. Mais tout ça pour dire, ça, le monsieur a posé une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques français, dans leur diversité, se sont défilés par rapport à la question allemande, en disant les Allemands, de toute façon, ils les prennent chez eux parce qu'ils veulent les exploiter. Bon, ça a été le grand argument français. Bon, ça a été le. Est-ce que oui ou non, on peut établir une relation entre la capacité d'accueil et les capacités économiques d'un pays, avec un contre-exemple qui nous a été donné quand même par madame à travers son témoignage de la Grèce, qui était quand même exemple et qui a quand même accueilli. Bon, donc j'ai envie de dire, c'est que bon, c'est une grande question, on ne peut pas le débattre, mais quand même, on peut apporter. Je sais que tu es économiste aussi, tu peux apporter des éléments de réponse.
Oui, je suis aussi économiste,
c'est la grande tâche. C'est incroyable. C'est la grande tâche.
Ouais, t'es économiste, hein. Non, je crois qu'il faut commencer par dissocier. Il n'y a pas une équation, comme a voulu faire le Front National à une certaine époque, 2 millions d'immigrés, 2 millions de chômeurs. C'est-à-dire que le marché du travail est extrêmement segmenté et la présence des immigrés dans la société, si on les renvoyait, la question du chômage ne serait pas réglée pour autant. Il est évident que si un pays comme la France accueillait les réfugiés, ces réfugiés seraient en situation régulière et ils ne pèseraient en rien sur les salaires, puisque les réfugiés, les immigrés en situation régulière ont exactement les mêmes droits que les salariés français. Ce n'est pas parce qu'il y a des immigrés en France que les salaires sont bloqués depuis je ne sais pas combien d'années, que le point de la fonction publique à laquelle les étrangers n'ont pas accès, c'est le point de la fonction publique est bloqué depuis 15 ans, le point d'indice. Il y a une, évidemment dans une société où le marché du travail est totalement sauvage, où il n'y a pas de réglementation du marché du travail, effectivement, nous sommes en situation de capitalisme parfait et l'offre et la demande de main-d'œuvre vont jouer. C'est clair. Et à ce moment-là, c'est l'utilisation de la fameuse réserve prolétarienne qui va faire baisser les salaires. Et justement, c'est parce que la situation est celle-là que, en France, l'économie, je n'ose pas dire française, les détenteurs des leviers économiques en France, pour parler clairement, ont besoin d'une main-d'œuvre en situation irrégulière. C'est ce que Manuel Théré a appelé la délocalisation sur place. C'est-à-dire tous les secteurs économiques qui ne peuvent pas être délocalisés ont délocalisé la main-d'œuvre, mais en dehors du code du travail. C'est un aspect presque anecdotique, mais qui est très curieux. Il y a une vingtaine d'années maintenant, le GISTI, qui est une association de défense et d'aide aux immigrés, avait lancé une campagne pour l'ouverture des frontières. Bien entendu, dans la logique du GISTI, c'était l'ouverture des frontières et le respect absolu du code du travail, le renforcement de l'inspection du travail, etc. Et à peu près au même moment, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, poisson pilote du mouvement des entreprises de France, qui à l'époque s'appelait le CNPF, le Conseil national du patronat français, lance un ballon d'essai en proposant l'ouverture des frontières. Mais bien entendu, dans la logique de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, c'était associé à l'abolition du code du travail qui était leur autre revendication. Donc vous voyez que la question de l'ouverture des frontières, elle joue à double sens. Si on ouvre les frontières et on maintient la régulation du travail par un code du travail protecteur de la main-d'œuvre, la présence de main-d'œuvre étrangère, surtout en situation régulière, ne jouera pas sur les salaires, ne jouera pas sur la flexibilité du travail. Mais plus vous avez de la main-d'œuvre en situation irrégulière, plus ça va faire pression sur le marché du travail, et c'est là où je reviens à mon propos de tout à l'heure, la présence de travailleurs immigrés en situation irrégulière en France, ce n'est pas le fait du hasard. C'est une politique qui répond à des intérêts précis. Et c'est pour ça que les gouvernants, qui sont au service de certaines couches de la population, mènent cette politique-là. Et c'est en ce sens aussi que je parlais de rapport de force.
Alors, la question du nombre des réfugiés à Ah oui, tu vas...
Juste rapidement.
Oui, il nous reste quelques minutes, vas-y.
Vraiment rapide. Je voulais juste aussi aller un peu dans cette direction et dire à quel point il est important tout de même et c'est peut-être la différence entre un pays comme la Grèce, qui n'a peut-être pas les moyens actuellement de mettre en place ce genre de politique et de dispositifs, de mettre en place des dispositifs d'insertion professionnelle, rapide, de reconnaissance des diplômes, c'est-à-dire que c'est pas simplement de dire « Ok, voilà, des migrants arrivent », mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de leurs compétences, parce que dans la plupart des cas, 70% des migrants qui sont arrivés et qui ont demandé l'asile en Allemagne ont une expérience professionnelle. La situation scolaire est très polarisée, il y en a qui sont très diplômés, il y en a qui ne sont pas du tout diplômés, mais l'idée est de reconnaître aussi les compétences professionnelles informelles de ces personnes pour que justement elles puissent entrer sur le marché du travail et éviter peut-être éventuellement, on verra si ça s'avère être le cas, mais un déclassement professionnel, ce qui n'est pas dans leur intérêt et dans l'intérêt de la population allemande non plus. Bon, ça peut l'être dans certains cas. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que il faut pas, il faut, faut, je pense qu'il faut avoir une vision plus sur le long terme, en fait. Voilà, c'est pas juste là, il faut que le gouvernement français prenne ses responsabilités, demande aux chercheurs qui travaillent sur ces questions, et il y en a énormément en France, mettent en place des enquêtes quantitatives pour qu'on comprenne, et qualitatives, pour qu'on comprenne comment se passe le processus d'insertion dans la société française, quels sont les dispositifs qui marchent. Et c'est comme ça que la population française aussi, en recevant les résultats de toutes ces recherches, qui seront transmises aussi par les hommes politiques et les femmes politiques, aura confiance dans l'avenir que la migration, ce n'est pas une menace. Et ça, toutes les enquêtes économiques de l'OECD et d'autres montrent que la migration, dans aucun cas, a un effet négatif sur l'économie, sur le marché du travail. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe à ce niveau-là et qu'on fasse plus travailler ensemble les personnes compétentes dans ce pays.
Merci Ingrid. Alors, Marie-Christine Vergiat. Sur la question économique, je pense encore, et puis aussi Catherine Graber, on répondra aux deux, trois questions.
Oui. Je vais essayer de répondre à la question économique et de répondre à deux, trois trucs en même temps, comme ça m'évitera d'en prendre la parole, parce que je crois qu'il en reste plus que 7 minutes. Je vais essayer de faire un peu en sécurité. Sur la question économique, ce n'est pas par hasard que je parlais des Ukrainiens accueillis en Pologne tout à l'heure. La Pologne est le fer de lance du groupe de Visegrad, qui est à la fois un groupe anti-migrant, qui refuse les politiques de l'Union européenne en matière d'immigration, mais qui refuse aussi les politiques sociales, et notamment la politique sur les travailleurs détachés, l'évolution de toute cette législation sur les travailleurs détachés. Or, je le redis, elle est le pays de l'Union européenne qui accorde le plus de titres de travail réguliers à des ressortissants hors Union européenne, et pendant ce temps, elle envoie ses propres travailleurs faire la concurrence sur l'Europe de l'Ouest. Donc il y a des dynamiques à l'échelle du continent qu'il faut arriver à comprendre. Et il faut effectivement utiliser les travaux des chercheurs, mais ne comptez pas trop sur l'État quand même. Hein. Je pense moi qu'il vaut mieux compter sur la société civile, parce que les travaux des chercheurs, effectivement, ils sont là. Les statistiques sont là, la façon dont les chercheurs savent travailler sur ces questions. Et si on veut se renseigner, il y a tout ce qu'il faut. Mais si on attend que l'État s'en serve, c'est pas pour demain qu'on va faire bouger les positions. Je pense que c'est à la société civile de s'en préoccuper pour faire bouger les lignes. Je pense que ce qui est très net dans tout notre débat d'aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des histoires par rapport à ces questions qui sont très différentes en Allemagne et en France. Et donc, ça n'amène pas les mêmes réactions. D'abord, la France est un vieil État. Est un très vieil État par rapport à l'Allemagne. Et c'est un très vieil État colonial, avec une histoire coloniale lourde. Voilà, tout à fait. Hein, et qui est une histoire qui mériterait effectivement d'être mieux connue. Mais il y a un déni par rapport à cette histoire coloniale, hein, qui est très utile à un certain nombre de gens. Et pour travailler au niveau européen, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je dis l'essentiel. Sur la question, je pense effectivement, de la relation économique avec l'Afrique, il y a un enjeu majeur. Et il y a un enjeu majeur qui ne concerne pas que l'Afrique de l'Ouest. Il y a une négociation qui est en train de se faire en ce moment, qui s'appelle le partenariat UE-Afrique, qui est affolant. Hein, on transfère à l'Union, enfin les États membres, transfère à l'Union européenne des responsabilités qui les arrangent pour faire le sale boulot tant en matière migratoire qu'en matière économique. Hein, et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est les accords de partenariat économique qui vont petit à petit se substituer aux accords de Cotonou, je vais le dire de façon très rapide. Ces accords de partenariat économique, c'est des accords de libre-échange pur et dur. Pas très différent de ce qu'on est en train, enfin différent sur le contenu parce que c'est pas les mêmes choses, mais en termes de logique économique, pas très différent du TTIP ou du CETA avec les États-Unis, le Canada ou de l'accord avec le Japon, et qui fait comme si les États africains étaient à égalité pour négocier avec les pays européens et notamment les entreprises européennes et les entreprises africaines. Hein, je ne pas la peine que je développe, je pense, hein, tout le monde sait ce qu'il en est. Quelle est la responsabilité des multinationales européennes dans le pillage de l'Afrique.
Et on continue. Or, si on veut, moi je ne suis pas pour qu'on bloque l'immigration parce que je pense que c'est une stupidité absolue, mais si on veut véritablement lutter contre les causes profondes de migration, comme on vous explique, eh ben, la première chose à faire, c'est d'arrêter de piller l'Afrique. Hein, arrêter de faire en sorte qu'on laisse ces pays se développer et qu'on remplisse enfin les engagements des pays développés en matière d'aide publique au développement. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans qu'on promet que l'aide publique au développement va atteindre 0,7% du revenu national brut. Hein ? On stagne, voire on régresse. C'est quand même complètement hallucinant, à tel point, et j'en arrêterai là, que l'aide de la diaspora aux pays d'Afrique est supérieure à l'aide publique au développement. Donc imaginons, si on les mettait tous dans un bateau, imaginons que ce soit possible, et qu'on les renvoie. Ça serait pire. Merci. Parce qu'on finirait d'aggraver la situation africaine. La diaspora africaine est le premier outil d'aide au développement des pays d'Afrique et notamment d'Afrique subsaharienne, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc il faut effectivement travailler toutes ces questions-là ensemble pour avoir un autre regard. Et je pense que des débats comme celui-là peuvent y contribuer. Et j'arrêterai là.
Merci. Merci. Catherine qui veut...
Oui, rapidement.
Puis on va faire la conclusion. Il y avait une question sur Dublin aussi.
Oui, c'est ça. Je vais faire le tour d'un peu toutes les questions.
Dublin et le nombre de réfugiés à Marseille. Donc on a deux questions et on finit.
D'accord. Donc moi, j'essaierai de faire rapidement le tour des questions posées un peu sur l'Allemagne ou la situation en Allemagne. En ce qui concerne l'impact sur le marché de travail avec l'arrivée massive quand même de réfugiés et autres migrants, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de réfugiés, mais également d'États tiers, pas uniquement de l'Union européenne aussi. Là, ce serait trop tôt d'y vraiment juger tous les aspects. Effectivement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même deux tiers des réfugiés qui sont arrivés en moins de 30 ans. Donc il y a quand même un fort espoir qu'ils sauront s'intégrer de la façon qu'ils trouveront aussi un travail avec les connaissances de langue qui sont nécessaires pour cela. Pour ceux qui n'ont peut-être pas encore les connaissances de langue suffisantes pour trouver un emploi en Allemagne. La République fédérale a lancé un programme d'insertion à basse qualification en fait, sur le marché de travail l'année dernière, en août dernier. Donc ça permet à tous ceux qui sont maintenant sur le territoire allemand, mais qui n'ont peut-être pas encore les compétences linguistiques, de quand même avoir un emploi, donc essentiellement dans l'entretien des installations ou des parcs, c'est pas des emplois peut-être très très valorisants, mais peut-être c'est un premier pas pour quand même être occupé, parce que je trouve que là l'occupation est aussi centrale quand on arrive dans un nouveau pays et n'avoir rien à faire, ça peut engendrer toute une sorte de mauvaises conséquences. Donc ça peut-être pour justement témoigner un peu sur l'impact sur le marché de travail. Ensuite la question de Dublin. Je sais que pour tous les réfugiés venant des pays comme la Syrie, l'Irak, l'Allemagne a suspendu ses procédures de Dublin. Donc, en fait, elle renonce donc à demander au premier pays d'accueil de faire ses procédures. Ça existe effectivement pour d'autres pays, mais juste pour la Syrie, je sais que là, en fait, 90% des cas sont décidés directement en Allemagne, même s'il y a eu un autre pays d'accueil, premier accueil en Europe. Donc, mais ça, c'est peut-être cette situation un peu particulière. Sinon... voilà, ça c'est la seule chose que je peux y rajouter à propos de ça. Sinon, le niveau européen, peut-être, juste pour y revenir aussi rapidement, parce que c'était la dernière question de monsieur, ce qu'on pourrait faire pour justement aboutir à une culture un peu européenne d'échange et de solidarité aussi. Peut-être l'uniformisation des règles au niveau européen d'accueil, ce serait déjà un premier pas. Il faut rappeler peut-être que l'Union européenne n'est évidemment pas compétente en matière d'intégration. Ça relève entièrement des États nationaux, d'appliquer les règles, voilà. Elle peut juste donner des cadres, en fait, l'Union européenne, et des financements, effectivement, pour la mise en œuvre de ces politiques. Mais effectivement, une uniformisation des règles, par exemple, des subventions auxquelles peuvent toucher les réfugiés, des procédures d'accueil, uniformisation des procédures d'accueil. Donc ce serait déjà un premier pas dans la bonne direction. En plus, pour peut-être finir sur une note un peu plus optimiste, à partir de la fin de cette année, il y aura un conseil franco-allemand sur l'intégration. Vraiment directement au niveau national. Et là, la société civile sera également impliquée. Donc, ce n'est pas un forum politique entre politiques qui discute un peu des mêmes choses qu'ils discutent aussi sous d'autres formats. Mais il y a un vrai espoir que cette nouvelle institution franco-allemande pourra peut-être contribuer également à plus de solidarité au niveau européen, parce que très souvent, la coopération franco-allemande a été un premier pas pour aboutir à un engagement plus vaste au niveau européen. Voilà.
Pedro, tu veux présenter peut-être très vite les deux nouveaux.
Il y avait une réponse sur Marseille.
Oui.
Oui.
Ah, la question sur Marseille.
Sur Marseille. Sur la juste un tout petit mot sur Dublin. Sur Marseille, dire le nombre de réfugiés qu'il y a à Marseille, alors je ne pourrais pas vous répondre. Ce que je peux vous répondre, c'est qu'en termes de premier accueil, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent sur Marseille ont envie de demander l'asile. En 2015, on était autour de 3 700 personnes suivies dans le service de la plateforme, 2 400 personnes primo-arrivantes sur une année, et sur 2016, il y a eu une augmentation sur la nouvelle plateforme, je n'étais pas. Et je pense qu'on est autour des 4 000 personnes suivies par la plateforme.
Ça, c'est où ? C'est des migrants ?
C'est des demandeurs d'asile, vous m'avez demandé la question. C'était sur les réfugiés. Les gens qui ont le statut de réfugiés.
Les réfugiés liés à la crise récente.
Ah, c'est
c'est une question qui est beaucoup plus compliquée. C'est pas les chiffres de la France, c'est les chiffres du service où je travaille.
Ouais. Voilà. C'était pour coller au sujet de l'eau. Comment ça se passe à Marseille,
D'accord. Comment ça se passe à Marseille? Je vous réponds. Ce qui se passe à Marseille, c'est que des gens qui arrivent sont accueillis par la plateforme Asile. La plateforme Asile a ses propres statistiques en termes d'accueil. Vous allez avoir des chiffres qui sont rendus par l'OFPRA qui ne seront pas forcément les mêmes, puisque vous avez aussi dans ces personnes des personnes qui sont sous statut Dublin, donc qui ne sont pas comptabilisées au niveau de l'OFPRA. Vous allez avoir des personnes qui vont bouger. Les personnes qui sont sur Marseille en premier accueil sont reçues par la plateforme et ensuite sont orientées au niveau national sur des dispositifs d'hébergement quand il y a des places. Donc c'est très compliqué de vous donner un chiffre exactement du nombre de personnes qui sont à Marseille. Il y aura, moi, je n'ai pas les chiffres en tête de la préfecture, de l'OFPRA, voilà, ça, je ne peux pas dire.
Et très vite, parce qu'on va
sur Dublin, et sur Dublin, juste, je pense que c'est un petit peu risqué de dire que les procédures Dublin sont suspendues en Allemagne.
Non, non, je n'ai pas dit ça.
Ah voilà, pour les Syriens, la question du monsieur n'était pas forcément pour les Syriens. Le règlement Dublin est applicable dans tous les pays.
Mais n'est pas obligatoire.
Mais n'est pas obligatoire.
Peut le suspendre,
que la France a suspendu sur la Grèce et a tenté de le faire sur la Hongrie. Mais pour répondre au monsieur, le règlement Dublin est applicable à Marseille, dans toutes les villes de France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, absolument partout en Europe.
Pedro, tu as...
Oui, non, c'est juste qu'on a fait référence à plusieurs reprises à ces deux numéros.
Donc c'est à quelques exemplaires, d'ailleurs.
De migration de société, l'un qui s'appelle « Réfugié d'un accueil », l'autre que j'ai eu le plaisir de coordonner, et qui retrace donc toute l'évolution de la question de l'asile en France depuis les années 20 jusqu'à la situation actuelle. Et je profite pour rappeler qu'il n'y a pas de crise des réfugiés. Les réfugiés sont victimes de la crise de nos sociétés. Il n'y a pas de crise des réfugiés. Et le deuxième, qui a été coordonné par Éric Tucci, sur l'Allemagne face aux nouveaux défis migratoires, entre guillemets, pour ne pas créer d'ambiguïté autour de la notion de défi migratoire. Si jamais ça pouvait intéresser quelqu'un, j'ai quelques numéros de la revue qui sont là.
Merci. Voilà, on va conclure.
Voilà,
alors, donc, bon, tout simplement, d'abord, vous remerciez le Parvis des Arts de nous avoir accueillis, remercier tous les invités donc, qui sont venus parfois de loin, donc Catherine Graeber, Marie-Christine Vergia, Margot Bonis, Ingrid Tucci, Pedro Viana. Merci beaucoup. Je pense que le débat était profitable. Au début, on était un peu inquiets, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, et finalement, le monde est quand même venu, il y a eu un bon débat. Je trouve que, sans démagogie, hein, et finalement, on a été nourris et enrichis par le débat, y compris entre la salle et les débatteurs, et entre les débatteurs eux-mêmes. Et puis moi, je me pose cette question, c'est vrai que je me la pose, je me dis souvent la question des réfugiés, est-ce que c'est pas aussi une fenêtre ou un symptôme de démocratie qui ne va pas, hein. Donc, comment tu traites tes réfugiés, je dirais comment tu traites tes citoyens. Quand je vois aujourd'hui qu'un certain nombre d'États autoritaires sont ceux-là même qui ont un discours parfois les plus stigmatisants sur les réfugiés, ça nous renvoie à l'entre-deux-guerres, hein. Ça nous renvoie à la montée des régimes autoritaires, à la montée des régimes fascistes. Alors, il ne faut pas faire de raccourcis historiques, il ne faut pas faire d'analogie, mais quand je vois la Hongrie et quand je vois un certain nombre de pays, de la façon dont ils traitent les réfugiés, quand je vois une France qui se ferme aussi, ça pose des questions, pas seulement pour les réfugiés, pas seulement pour les migrants, mais je crois aussi pour l'ensemble des citoyens. Donc, dis-moi comment tu traites les réfugiés, je dirais comment tu traites tes citoyens et ta démocratie. C'est peut-être la conclusion que je ferai de cette table ronde, et je vous remercie. Thank you.